2-3 minutes de retard, mais enfin. Donc j'excuse déjà le président de la CAP, Alain Claës, qui ne peut pas être parmi nous ce soir, étant donné qu'il y a un bureau de la CAP, avec un certain nombre de décisions très importantes à prendre. Donc, mais il m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue dans ces magnifiques locaux. Alors, moi, je vais être très très bref, juste vous dire vous donner quelques petites informations. La première information, mais vous avez dû déjà vous en rendre compte, c'est que les 4 conférences de l'an dernier, donc le premier cycle de conférences sur construire la ville, a fait l'objet d'une synthèse que vous avez, voilà, sur une table à l'extérieur et qui est en ligne sur le site de la CAP, n'est-ce pas Virginie? Donc déjà, vous avez un document très synthétique, et merci à Sylvain, puisque c'est lui qui l'a réalisé, et ainsi qu'avec Virginie, bien sûr, mais c'est un élément important et qu'on va essayer de poursuivre parce que ça permet d'avoir une petite mémoire sur toutes ces bonnes idées qui nous sont apportées ici. Donc ça, c'était la première information. Un petit mot pour vous expliquer comment on en est arrivé à poser le thème qu'on va commencer à aborder ce soir et qui va durer 5 séances, 5 conférences pendant l'année 2010. Eh bien, la première des raisons, hein, c'est crise financière, crise économique, et puis maintenant, il nous semble qu'on est en train de s'acheminer vers une crise sociale assez grave. Et c'est vrai que pour être un petit peu impliqué dans le monde de l'insertion, on se rend compte que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, les épiceries sociales sont des structures qui sont de plus en plus envahies, hein, et ils s'en créent pratiquement dans toutes les communes de la CAP et dans différents quartiers de Poitiers, et que de plus en plus il y a des gens qui s'y inscrivent, et croyez-moi, pour s'y inscrire il faut avoir des revenus extrêmement bas. Donc pour prendre que l'exemple de celle, la dernière inaugurée, c'est celle de l'éveil sur la ZUP, des couronneries. Et c'est 400 familles, c'est un peu plus d'11 personnes, donc c'est vraiment quelque chose qui se développe. Et là, c'est uniquement pour une chose, pouvoir manger. Donc il nous semble que la crise sociale, c'est pas tout à fait une vue de l'esprit, c'est aussi quelque chose de très concret pour nos concitoyens. Donc ça, c'est ce qui nous a amené, je dirais, quasi naturellement à poser cette question là pour... Quel thème de conférence? Et la deuxième raison importante, c'est qu'on a 5 groupes de travail, hein, qui sont en train de fonctionner en ce moment au Conseil de développement. Et dans les 5 groupes, on est très rapidement confronté à la question de la précarisation de la population et de cette pauvreté grandissante. Donc il nous semblait important que plutôt que d'avoir un sentiment ou une appréhension, on puisse essayer de vérifier à travers un certain nombre de gens dans notre conférencier de ce soir, mais pour voir un petit peu si la direction qu'on a prise et le travail de prospective qu'on essaie de faire, il est fondé, il ne l'est pas, il l'est correctement ou il ne l'est pas correctement. Donc voilà la raison. Et avant de passer la parole à Sylvain qui va animer, mais lui vous le connaissez, et puis donc à Denis Clerc, notre conférencier de ce soir, un petit mot de Mario, notre co-organisateur, plus que co-organisateur, parce que c'est Mendès France qui essaie à chaque fois de nous trouver les bons conférenciers au bon moment et au bon endroit. Merci Mario.
Merci. Je vais être encore plus bref que James Renault. Donc pourquoi l'espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes, est associé à ce cycle de conférences? Le comité de développement responsable est chargé de faire des propositions aux élus à la CAP. Hein. Et vous imaginez que faire des propositions sur la mobilité, les déplacements, c'était l'objet du cycle l'année dernière, ou sur les nouveaux défis sociaux que doit affronter une cité, interfère plusieurs champs disciplinaires. Hein. Les défis sociaux, il y a sûrement l'aspect sociologique, mais il y a aussi l'aspect économique, s'intéresser aussi aux politiques publiques, etc., etc. Et donc, pour faire ces propositions, une réflexion sur ces différentes thématiques, eh bien, l'espace Mendès France s'associe pour faire appel aux experts nationalement et internationalement reconnus sur ces domaines qui permettront ainsi d'alimenter la réflexion des membres du comité. Et alors, en plus, eh bien, on a souhaité que ce cycle de conférences ne soit pas simplement une formation pour une future réflexion des membres du comité, mais soit aussi une information pour tout citoyen de la communauté. Donc voilà pourquoi Mendes France a le grand plaisir de participer, mais il participe aussi par d'autres actions, à des actions de... à des actions mises en œuvre par la CAP ou par la municipalité. Donc c'est avec grand plaisir que nous élaborons le programme de ce cycle conjointement. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais passer la parole pour une présentation à notre animateur Sylvain Allemand.
Merci Mario, merci Jam. Et rassurez-vous, je vais être très court. J'imagine que vous êtes très impatient d'entendre notre conférencier de ce soir. Je voulais simplement souligner le fait que la conférence de ce soir inaugure un cycle qui va nous emmener jusqu'en novembre. On voit très très loin au Conseil de développement responsable pour décliner, aborder les inégalités sous presque toutes les coutures et voir leurs effets au niveau des territoires dans la mesure du possible. Je dis dans la mesure du possible. Parce que justement, le lien entre inégalités, quelles qu'elles soient, sociales, culturelles, etc., et territoire n'est pas toujours fait, mais c'est justement l'enjeu des discussions qu'on va avoir avec vous, des échanges, des débats. C'est à cette occasion qu'on abordera, qu'on confrontera l'éclairage de nos conférenciers avec vos expériences en tant que représentants de l'agglomération de Poitiers. Alors, très rapidement, je rappelle que le 1er avril, donc dans un peu plus de bien plus d'un mois, on va aborder les solidarités intergénérationnelles en montrant comment elles atténuent les effets des inégalités, mais on va voir aussi dans quelle mesure la crise a affecté les solidarités intergénérationnelles, concrètement entre les grands-parents et leurs petits-enfants. On abordera aussi, la fois suivante, les inégalités au regard de la mobilité. Nous sommes inégaux devant la mobilité. Nous n'avons pas les mêmes accès aux moyens de transport ou accès aux mêmes moyens de transport individuels ou collectifs. Il y a des inégalités, c'est ce que va nous expliquer le sociologue Éric Le Breton. Quatrième conférence, elle abordera la question des inégalités au regard de l'énergie. Et on n'est pas peu fier quand même d'avoir programmé la question de la précarité énergétique, parce que nous l'avons fait bien avant l'apparition d'un rapport récent diligenté par deux secrétariats d'État qui ont cependant eu le mérite de provoquer un rapport sur la situation dramatique que connaissent un certain nombre de ménages où pourtant les gens travaillent, sont propriétaires, mais confrontés à l'alourdissement de leurs factures énergétiques. La dernière conférence, nous sommes enfin en mesure de vous le dire, portera sur les inégalités territoriales face à la santé. C'est-à-dire que les inégalités face à la santé, elles ne sont pas liées simplement à votre catégorie sociale d'appartenance, elles dépendent aussi de l'endroit où vous habitez. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Denis Clerc. Ça va être très bref, c'est le genre de conférencier qui offre le mérite d'éviter de longues présentations. Vous le connaissez sans doute, la plupart d'entre vous, si vous lisez Alternative économique, le point de vue en fin de magazine. Je profite quand même de l'occasion, Denis Clerc, si vous m'y autorisez, de rappeler que votre ouvrage, qui a un peu justifié votre présence ce soir, La France des travailleurs pauvres, publié chez Grasset, est désormais disponible en format de poche. Donc c'est quand même intéressant pour les lecteurs moins fortunés. Et puis, je rappelle aussi la publication toute récente de La paupérisation des Français aux éditions Armand Collin. Denis Clerc, merci, d'autant plus que vous nous venez du Jura, donc les inégalités face à la mobilité, là, vous pouvez en témoigner, mais ce n'est pas de cela dont vous allez nous parler, c'est justement de ces ménages pauvres, en saisissant l'occasion de nous rendre compte des différentes formes d'inégalités et surtout des facteurs qui sont cause du creusement des inégalités des Français. Vous disposez pour ça de 45 minutes, un peu plus si nécessaire, suivra une discussion avec la salle. Par avance, merci.
Merci. Bonsoir à tous. Il y a encore des places devant, hein, c'est plutôt que de rester debout, si vous voulez. Bon, bref. Alors... c'est vrai que je suis content d'être ici à Poitiers, qui est une si belle ville, mais que ce soir, on va parler d'un sujet qui n'est pas très drôle, hein, la question de la pauvreté, de la paupérisation d'une fraction importante de la population française. Je découperai mon propos en trois parties, une première partie sur la pauvreté, une deuxième partie sur la paupérisation et enfin une troisième partie sur qu'est-ce qu'on peut faire. Ce découpage en trois parties me paraît important parce que pour moi, je me refuse à mettre dans le même sac pauvreté et paupérisation, même s'il s'agit de deux termes relativement proches. Ils renvoient à des réalités assez différentes. J'essaierai de m'en expliquer. Je n'aurai pas la possibilité de tout dire dans l'exposé liminaire, mais sur tel ou tel point, on pourra éventuellement revenir, si vous le souhaitez, au cours de l'échange qui suivra. Alors, la pauvreté, premier point, donc première partie de cette présentation. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord pauvreté, hein? Alors la pauvreté, c'est quelque chose qui a de multiples dimensions. Ça peut être, il peut y avoir des dimensions culturelles. On peut dire que dans une société où l'écrit et la communication écrite est majeure, en tout cas largement prédominante, où même les automates vous demandent de répondre à des questions en tapant sur telle ou telle touche, la maîtrise de l'écriture, ne pas maîtriser l'écriture et a fortiori ne pas savoir s'exprimer correctement, ne pas savoir remplir un chèque, par exemple, c'est des formes de pauvreté culturelle. On peut mentionner des pauvretés en conditions de vie, le fait qu'il y ait des gens qui, soit parce qu'ils sont privés de voiture ou de permis de conduire, soit parce qu'ils vivent loin ou qu'ils ont des circonstances familiales qui font qu'ils n'ont pas accès, par exemple, à Internet, tout ça peut engendrer des formes de marginalité sociale et donc des formes de pauvreté. Ce soir, je vais prendre la pauvreté par l'aspect monétaire. C'est un aspect réducteur, mais les enquêtes que l'on peut faire montrent que c'est très souvent une cause de pauvreté qui se cumule avec d'autres. C'est pas un hasard si les gens qui sont en situation de pauvreté monétaire, c'est-à-dire qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, sont aussi des gens dont les enfants ont des difficultés à l'école. C'est pas une règle générale, mais c'est assez fréquent. Sont aussi des gens qui ont des problèmes de logement, sont aussi des gens qui ont des problèmes d'insertion professionnelle, etc. Et donc, il y a des liens très étroits entre pauvreté monétaire et les autres formes de pauvreté. C'est donc par ce biais que je vais rentrer dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pauvreté monétaire ? Eh bien, c'est le fait pour un ménage, j'insiste bien sur le fait qu'on prend en compte des ménages, je dirai un mot dans un instant sur ce que cela signifie, le fait pour un ménage de vivre en dessous du seuil de pauvreté. Alors, un ménage, ça peut être composé de une personne, c'est même assez fréquent, il y a environ 6 millions de ménages en France qui sont composés d'une seule personne, mais le plus souvent, c'est composé de plusieurs personnes qui ont pour trait commun de mettre en commun leurs revenus ou d'avoir des revenus qui, par exemple des allocations familiales, qui sont des revenus adressés aux ménages pour les enfants en ce qui concerne les allocations familiales et pas simplement à une personne déterminée. Et donc le ménage, c'est l'unité que l'on prend en compte parce que c'est l'unité qui reçoit des revenus. Alors parfois, bien entendu, mais c'est quand même relativement rare, dans les ménages, tout le monde, enfin l'argent est gardé par un des membres du ménage. Hein. Mon épouse qui travaille dans le domaine des femmes battues est sans cesse confrontée à des problèmes de ménage dans lesquels celui qui gagne la vie, en général il s'agit de l'homme, donne d'une manière extrêmement chiche à son conjoint, à sa conjointe, de quoi à peine survivre et puis dépense généreusement le reste avec un mode de vie donc, qui peut varier, mais qui... Donc, on va faire l'hypothèse, qui est quand même la plus fréquente, heureusement, que les revenus du ménage sont partagés entre les membres du ménage et c'est la raison pour laquelle on prend en compte la notion de ménage. Alors maintenant, être en dessous du seuil de pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, un ménage a un nombre de personnes qui peut varier de 1 à N, hein, peu importe, il n'y a pas de limite, mais il est évident qu'on sera plus ou moins pauvre selon l'importance des revenus d'une part, mais du nombre de personnes que l'on a à l'intérieur du ménage. Et donc, on va raisonner en niveau de vie, c'est-à-dire en équivalent en équivalent personne. Supposons que, par exemple, un ménage soit composé d'une seule personne, c'est le cas le plus simple, et que cette personne ait un niveau de vie de 1000 euros, par exemple, parce qu'elle travaille, que c'est un revenu qu'elle gagne en travaillant au SMIC, à temps plein, ou presque à temps plein. Bon, ok, 1000 euros, ça la met au-dessus du seuil de pauvreté, qui en France est défini, c'est des chiffres qui datent malheureusement de 2007, comme étant un niveau de vie de 900 euros. Si il y avait un ménage composé de deux personnes, combien faudrait-il que le ménage gagne pour équivaloir le niveau de vie de la personne seule dont je parlais à l'instant? Voilà, une personne seule qui a 1000 euros, son niveau de vie est donc équivalent à 1000 euros. S'il y a un couple, les statistiques montrent que 1500 euros devraient leur suffire pour avoir à deux le même niveau de vie que la personne seule. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux réfrigérateurs, deux machines à laver, deux compteurs électriques, etc., etc. Et que même l'appartement, il n'est pas nécessaire d'avoir l'équivalent de deux studios. Quand on vit à deux, on peut vivre dans un appartement qui est moins important que le double. Donc en termes de chauffage, en termes de dépenses nécessaires pour faire face au quotidien, notre ménage de deux personnes aura besoin seulement de 1500 euros. Voilà. Et comme ça, l'INSEE, donc la statistique publique, mesure les niveaux de vie de tous les ménages en équivalent temps plein, c'est-à-dire que chaque personne aura dans mon ménage de deux personnes, chaque personne aura un niveau de vie équivalent à 1000 personnes, même si le ménage dans son ensemble ne gagne que 1500 euros. Voilà. Alors, on regarde tous les niveaux de vie de tous les ménages, calculés de cette manière-là, et on regarde la médiane des niveaux de vie. La médiane, c'est quoi? C'est celle qui partage l'ensemble de la population en deux groupes, ceux qui ont moins, un niveau de vie moindre, et ceux qui ont un niveau de vie plus élevé. Cette médiane, toujours en 2007, c'est la dernière année pour laquelle on a des chiffres, c'est de 1500 euros. C'est-à-dire que la moitié de la population vit à un niveau de vie supérieur à 1500 euros et l'autre moitié à un niveau de vie inférieur à 1500 euros. Et les pays européens, les pays de l'Union européenne, se sont mis d'accord en 2000, c'était la rencontre de Lisbonne, le sommet de Lisbonne, pour mesurer la pauvreté comme étant égale à un niveau de vie inférieur à 60% de ce niveau de vie médian. Le niveau de vie médian, donc 1500 euros, 60% de 1500 euros, ça fait 900 euros. Toutes les personnes, tous les ménages qui ont un niveau de vie inférieur à 900 euros, sont donc considérés comme étant en situation de pauvreté. Alors, il y en a aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de personnes, on va regarder la statistique du nombre de ménages, 8 millions de personnes qui vivent en 2007, donc avec moins que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 900 euros. Ça représente 13,4% de la population française en son ensemble. 8 millions de personnes, c'est loin d'être un chiffre mineur. Mais moi, ce qui me frappe, et puis je vais y revenir, c'est deux choses. La première chose, c'est que quand on parle de pauvreté à la télé, presque toujours, qu'est-ce qu'on a comme sujet, comme image des gens qui ont des difficultés de logement et qui, par exemple, dorment dans leur voiture? Or, heureusement, vous n'avez pas 8 millions de personnes qui dorment dans leur voiture. Vous en avez tout au plus 10 000 en France. C'est 10 000 de trop. Mais dans la plupart des cas, en plus, les personnes qui dorment dans leur voiture sont des personnes qui viennent de vivre une rupture familiale récente et qui n'ont pas encore les moyens ou pas la possibilité de louer un nouvel appartement. Il s'agit d'une situation transitoire. Très rares sont les gens qui dorment à longueur d'année dans leur voiture. On peut dire qu'il y en a tellement peu que c'est même pas chiffrable. En revanche, vous avez à peu près 100 000 personnes qui vivent dans des caravanes. Alors là, c'est complètement différent. Mais vous remarquerez bien, à la télé, c'est rarement des caravanes qu'on filme. Pour montrer l'image de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on vous montre une image de la pauvreté qui n'est pas la réalité de la pauvreté, qui est une difficulté le plus souvent transitoire, éprouvée par des gens qui ne sont pas forcément des gens pauvres, mais qui peuvent être ils le sont parfois, mais qui le plus souvent sont dans des problèmes de rupture familiale, un divorce, une séparation, une expulsion de logement, etc., etc. Bon, alors, ça c'est la première chose que je voulais dire. L'image que nous avons de la pauvreté ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est une réalité de masse. 8 millions de personnes, ce n'est pas 8 millions de gens qui viennent au Resto du Cœur. Vous en avez beaucoup qui viennent au Resto du Cœur. Tout à l'heure, Jam l'a dit, les épiceries sociales ne cessent d'être davantage fréquentées. Mais au total, c'est quelques centaines de milliers de personnes qui viennent dans l'ensemble des épiceries sociales. L'ensemble des Restos du Cœur, c'est à peu près entre 800 000 et 1 million de personnes qui sont des usagers fréquents des Restos du Cœur. Donc, vous voyez bien que l'image que nous avons de la pauvreté, qui est un manque dramatique de gens qui n'ont même pas les moyens de faire face à leurs besoins alimentaires, c'est pas forcément la réalité de la pauvreté. C'est la réalité d'une certaine forme de pauvreté, la pire, pourrait-on dire, hein, quand on n'a même pas de quoi se payer à manger, c'est peut-être le plus difficile, mais il y a d'autres formes de pauvreté, c'est les logements. La Fondation Abbé Pierre, qui vient de rendre son rapport annuel, montre qu'il y a 2 millions de personnes à peu près en France qui vivent dans des situations de logement absolument déplorables, et la plus grande partie d'entre elles sont certainement des personnes en situation de pauvreté. Voilà, donc, première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que si on remonte le temps, on ne peut pas remonter au-delà de 70, parce qu'à ce moment-là, la notion même de seuil de pauvreté n'existait pas. Hein. Elle a été inventée au début des années 90, en même temps que le RMI. Pour une raison très simple, c'est que le RMI, il a été voté en 1988, mais mis en place le 1er janvier 1989. Eh bien, on attendait 400 000 personnes au titre du RMI, et au total, les derniers chiffres, juste avant que le RMI ne devienne RSA, il y en avait 1 200 000. Et dès les débuts des années 90, il apparaissait clair qu'il y avait bien plus de gens qu'on ne le soupçonnait. On pensait qu'il y avait à peu près 400 000 personnes qui allaient émarger dans ce nouveau minimum social. Ben, il y en a eu très vite le double, et puis progressivement, on est passé au triple. Donc, on a commencé à se poser des questions au début des années 90, 93, 94, et on a commencé à mesurer la pauvreté de la façon que je l'ai indiqué tout à l'heure, mais à l'époque c'était 50% du niveau de vie médian, maintenant c'est 60% du niveau de vie médian, parce que c'est une définition européenne désormais. Longtemps ça a été une définition purement française, 50% du niveau de vie médian. Alors ne vous étonnez pas, dans des livres déjà anciens ou des articles anciens, ou des gens qui connaissent pas bien le truc, ils vont vous citer des chiffres qui sont à 50% du niveau de vie médian, alors que maintenant c'est 60%. C'est un peu une norme arbitraire. Hein. On aurait pu choisir 50%. Là, c'est 60%. Bon, je dirai deux mots tout à l'heure là-dessus. Mais depuis 70 à 60% du niveau de vie médian, le nombre de personnes en situation de pauvreté n'a certes cessé de diminuer. Il y en avait 19%, pratiquement 20%. Hein. Un cinquième de la population était dans cette situation-là au début des années 80 et des années 70, il n'y en a plus que 13,4%. Et vous remarquerez que depuis 2004, c'est le point bas. 2004, c'était 12,7%. Et depuis, on a arrêté cette lente diminution, qui est une diminution de longue période. Alors, avant de parler de la... Du rebond qu'a connu la pauvreté depuis 2004, pourquoi de nouveau c'est orienté à la hausse, je voudrais dire deux mots sur cette baisse. Quand vous posez la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de pauvres, 90-95% des personnes interrogées répondent oui. Oui, ça paraît une évidence. Il y a de plus en plus de pauvres. Or, c'est pas ce que mesurent les statistiques. Vous me direz, les statistiques peuvent se tromper. Non, dans ce domaine, elles se trompent guère. Il peut y avoir, c'est peut-être pas 13,4, c'est peut-être 13,5 ou 13,6%. Il y a une marge d'erreur, mais les grandes lignes sont celles-là. On ne peut pas se tromper quand on passe de presque un cinquième de la population à peu près un septième. Il y a manifestement une évolution vers une réduction de la pauvreté. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la pauvreté a changé de visage. Dans les années 70, c'était qui les personnes pauvres ? C'était des personnes âgées, c'était des travailleurs indépendants, souvent à la campagne, des petits paysans, des petits commerçants qui avaient une petite boutique, qui faisaient difficilement front, puis qui continuaient à essayer de gagner quelques sous parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Ils avaient 50 ou 60 ans et ils attendaient désespérément de pouvoir revendre leurs fonds pour pouvoir se retirer. C'était des familles nombreuses, beaucoup de familles nombreuses, parce que les allocations familiales n'étaient pas du niveau que nous avons actuellement et qu'il y avait toute une série de prestations familiales, les allocations logement notamment, qui étaient bien moindres que ce n'est le cas aujourd'hui. Bref, pour toutes ces raisons, c'était le cœur de la pauvreté, il était là, et surtout chez les personnes âgées. Pour des tas de raisons, c'est que le minimum vieillesse était très faible. C'est Giscard d'Estaing en 1976 qui l'a remonté dans des proportions relativement sensibles. C'était aussi que beaucoup de gens arrivaient à l'âge de la retraite, qui était à 65 ans à ce moment-là, avec très peu de cotisations au titre de l'allocation, enfin de l'assurance vieillesse, parce qu'elles n'avaient jamais cotisé, elles étaient indépendantes. Rappelez-vous les mouvements des poujadistes ou de Pierrot Poujade, hein, pas l'ancien maire de Dijon, Robert Poujade, ministre de la Culture. Pierrot Poujade avait emmené dans les années 50-60 toute une masse de petits commerçants, il n'était pas petit à s'insérer, pour refuser toutes les cotisations, les prélèvements obligatoires au titre des prestations sociales. Et résultat, un grand nombre de commerçants, de petits commerçants ou de petits artisans n'avaient jamais cotisé à des caisses de retraite jusqu'au début des années 70. C'est devenu obligatoire seulement à partir de ce moment-là. Bon, pour toutes ces raisons, et puis des gens en 1970, des gens qui prenaient leur retraite, et ils n'avaient cotisé que durant 25 ans, puisque l'assurance vieillesse n'a été instaurée pour les salariés qu'en 1945. Ben, quand vous avez 25 ans, alors que normalement, à ce moment-là, il fallait 37 annuités et demie pour avoir une retraite à taux plein, et que vous aviez un salaire qui était faible, et bien lorsque vous prenez votre retraite, vous vous trouviez en dessous du seuil de pauvreté. Bref, pour toutes ces raisons, qui sont des raisons, j'allais dire, techniques, il y avait beaucoup, beaucoup de pauvres. Mais on les voyait pas. On les voyait pas parce qu'ils étaient dispersés un peu partout et que surtout, comme c'était principalement des personnes âgées, ben les personnes âgées, elles vivaient sur leurs souvenirs. Elles n'allaient pas faire la manche, elles n'allaient pas au Resto du Cœur. D'abord, ça n'existait pas. Mais elles avaient honte de la pauvreté. Et souvent, elles comptaient sur la solidarité, soit du voisinage, soit du reste de famille qu'elles pouvaient avoir, avec laquelle elles avaient des liens pour survivre plus ou moins d'une manière précaire. Aujourd'hui, la pauvreté a complètement changé de visage. La pauvreté, c'est d'abord une affaire de jeunes. 13,4% des Français étaient pauvres en 2007, mais si vous prenez la tranche d'âge moins de 18 ans, on était à 20%, donc c'est des enfants ou des jeunes, et puis entre 20 et 25 ans, on monte jusqu'à 25% de taux de pauvreté. C'est énorme. Et donc, des jeunes qui, leurs parents les ont hébergés, les ont nourris, les ont blanchis durant, jusqu'à leur majorité, à leur majorité, ils leur disent, maintenant, tu te débrouilles. Sauf que se débrouiller, surtout lorsqu'on n'a pas de diplôme, ce qui était le cas, et ce qui continue à être le cas d'un grand nombre de jeunes qui sortent de l'école, 170 000 jeunes à peu près sortent de l'école sans diplôme, tout ça est un phénomène extrêmement pénalisant pour trouver un boulot qui vous permet de vivre correctement. Si vous avez un boulot qui est entrecoupé deux mois de travail ou un mois de travail entrecoupé de deux mois ou de trois mois de chômage, eh bien vous êtes en dessous du seuil de pauvreté. Et ce n'est pas vos parents qui vont venir à votre secours, puisque vos parents vous ont dit, tu te débrouilles maintenant, on n'a pas les moyens de continuer à t'entretenir. Voilà. Donc on est devant des phénomènes qui se voient bien mieux que ce n'était le cas auparavant. Et puis surtout, c'est le phénomène des travailleurs pauvres. Car au-delà des jeunes, au-delà de cette tranche de 20-24 ans dont je viens de parler, hein, presque un quart qui sont en situation de pauvreté, eh bien, il y a un nombre grandissant, et désormais c'est le principal élément dynamique de la pauvreté, un nombre grandissant de personnes qui sont en emploi et qui pourtant ne gagnent pas suffisamment leur vie. Alors, je vais en dire deux mots parce que je ne vais pas insister, mais je pourrais y revenir tout à l'heure. Hein, j'ai écrit tout un bouquin là-dessus. Je fais une petite parenthèse. Il se trouve que j'ai quitté Alternatives économiques, donc la direction du journal, à la fin des années 90, début des années 2000, et qu'à ce moment-là, bon, pas pour des raisons de désaccord, hein, et je continue à être très présent dans l'équipe, mais je pensais qu'il valait mieux ne pas trop s'accrocher trop longtemps. Nous sommes une coopérative ouvrière, et c'est important que le tuilage, comme on dit, puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc j'ai quitté à ce moment-là, en remettant les clés de la boutique, politique à mon successeur, Philippe Frémaux, et je n'ai pas eu besoin de revenir. Je m'étais dit, je suis suffisamment jeune, si ça ne marche pas bien, je reviendrai. Je n'ai pas eu besoin de revenir, ça marche très bien, merci. Il est un excellent directeur de l'entreprise. Mais je suis allé à ce moment-là au CERC. Au CERC, c'est le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, CERC. Et ce CERC venait d'être recréé par le gouvernement de l'époque, il s'agissait de Lionel Jospin, et la présidence en avait été confiée à Jacques Delors. Jacques Delors m'a donc demandé de venir rejoindre la petite équipe, nous étions 7 de salariés, de rapporteurs, c'est notre nom officiel, pour travailler sur des rapports, sur des sujets de politique sociale destinés à éclairer les autorités publiques, donc le président de la République, mais aussi le gouvernement, et puis ce qu'on appelle les corps constitués, sur certains problèmes de politique sociale. Alors on a fait un certain nombre de rapports que vous pourrez éventuellement trouver en ligne sur Internet, je vais pas... mais il y en a un en particulier sur les enfants pauvres, et il y en a un autre qui devait voir le jour sur les travailleurs pauvres. Car lorsque je suis rentré au CERC, Jacques Delors m'a demandé de m'occuper plus particulièrement de ces questions de pauvreté qui commençaient à émerger dans le débat public, parce qu'un certain nombre de gens se disaient « il y a de plus en plus de pauvres ». C'était une impression plus qu'une réalité statistique, hein, je vous renvoie à ça. Et il m'a demandé donc de m'occuper de ça, et plus particulièrement de la question des « working poors ». Parce que « working poor », c'est littéralement le mot anglo-saxon pour désigner « travailleurs pauvres ». Mais ça semblait à tout le monde que ça ne pouvait pas exister en France, que ça n'existait qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni et en Irlande, et puis dans les pays anglo-saxons d'une manière générale, parce que là-bas, il y a à la fois peu de protection sociale et en même temps pas de salaire minimum. Il venait d'être recréé en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, par Tony Blair, mais il avait été supprimé par Mrs. Thatcher dès 1983 ou 4, je crois. Et la plupart des pays anglo-saxons n'ont pas de salaire minimum. Donc l'addition ou des salaires minimums de très faible ampleur, hein, par exemple aux États-Unis actuellement, c'est $6.15 de l'heure, le salaire minimum américain, $6.15 de l'heure, ça va passer au mois de juillet prochain à $6.65, mais vous pouvez faire le calcul, ça représente à peu près 4,5 €, même pas 4,5 €, et 4,5 €, c'est à peine moitié du salaire minimum français qui était 82 €. Donc vous voyez la faiblesse encore aujourd'hui du minimum salarial dans un pays comme les États-Unis. Alors beaucoup de gens disaient c'est un phénomène anglo-saxon. Alors Jacques Delors a dit je ne suis pas sûr que ce soit un phénomène uniquement anglo-saxon, il faut travailler ça. Et on s'est aperçu, donc on a demandé à l'INSEE d'introduire la notion de travailleur pauvre, de la définir, je ne vais pas vous faire un cours de méthodologie là-dessus, et en 2005 sont arrivées les premières statistiques, à notre grande surprise, il n'y avait pas tout à fait, 1,5 million de travailleurs pauvres en France, 1,5 million. Avec leur famille, ça représentait pratiquement 4 millions de personnes. Donc, dès 2005, on savait que la pauvreté laborieuse était un phénomène majeur. Cette pauvreté laborieuse, elle est le fait de qui ? Elle est le fait de personnes qui ont soit des emplois temporaires, donc entrecoupés de périodes de chômage peu ou pas indemnisées. Donc les emplois temporaires, c'est des CDD, c'est de l'intérim, c'est des contrats aidés, soit des emplois à temps partiel, ou lorsque, si je reprends le chiffre d'aujourd'hui, gagner 900 € par mois, ça implique le SMIC net, une fois toutes les cotisations sociales retirées, c'est 1 050 € par mois pour une personne seule. Et on peut y rajouter à peu près 80 € de prime pour l'emploi, à condition d'avoir son emploi toute l'année. Donc, mais dans le meilleur des cas, c'est un peu plus de 1 100 €. Pour gagner 900 € net par mois tous les mois de l'année, il faut travailler en gros à 4/5 de temps, et même un peu plus de 4/5 de temps. Et 4/5 de temps aujourd'hui, c'est aux alentours de 28 heures. 28 heures de travail hebdomadaire. Tous ceux qui ont un emploi à temps partiel payé au SMIC, et les emplois à temps partiel sont très souvent payés au SMIC, c'est la majorité des emplois à temps partiel, risquent d'être en situation de pauvreté s'ils n'ont pas un conjoint qui gagne de quoi compenser. Alors, mettez-vous à leur place, non pas de conjoints en situation de compensé, par exemple les jeunes qui sont, dont la famille leur a dit « débrouille-toi » et qui parfois ont une copine, mais ne peuvent pas arriver à trouver tous les deux du boulot dans le même endroit et vivent seuls. Mais c'est le plus souvent aussi des familles monoparentales. Familles monoparentales qui, parce qu'elles ont charge d'enfants, je dis « elles » parce que ce sont des femmes dans 95% des cas, soit parce qu'elles ont des charges d'enfants, elles ne peuvent pas travailler à temps plein parce que la charge d'enfant implique, par exemple, d'amener les enfants à l'école ou à la nounou, etc., dans les heures, ou soit parce que, faute de revenus suffisants, elles ne peuvent pas payer une nounou à temps plein. Ou, deuxième cas de figure, elles ne trouvent rien d'autre. Donc, ces femmes, chefs de famille monoparentales, à cause de leurs contraintes d'enfants le plus souvent, sont très fréquemment amenées à vivre en dessous du seuil de pauvreté. 35% des familles monoparentales sont en dessous du seuil de pauvreté, ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. C'est absolument dramatique. Or, le nombre de familles monoparentales progresse aujourd'hui de l'ordre de 3 à 4% chaque année. Donc c'est un élément dynamique d'accroissement de la pauvreté et qui explique la rupture, enfin une des explications de la rupture de 2005. Voilà, donc je résume, beaucoup de travailleurs pauvres qu'on ne soupçonnait pas sont apparus au plein jour à partir de 2005, on va dire, quand on a commencé à avoir des chiffres sérieux et... aux surprises, il ne cesse de progresser. Entre 2005 et 2007, on est passé de 1 500 000 à 2 millions. 2 millions de travailleurs pauvres maintenant. 1 998 000 pour être très précis. 1 998 000. Donc, une proportion qui va croissant de travailleurs pauvres. Pour quelles raisons ? Eh bien, des raisons sociologiques, j'en ai indiqué une, c'est la montée des familles monoparentales, mais aussi des raisons économiques. C'est la multiplication des emplois précaires. Qu'il s'agisse des emplois temporaires, ça c'est des chiffres de 2007 dont je vous parle, avant la crise, à un moment où le chômage diminuait, mais il diminuait au profit d'emplois de plus en plus précaires, c'est-à-dire entrecoupés de périodes de chômage, parce que 15 jours, un mois, deux mois dans le meilleur des cas d'emploi, et puis ensuite retour à la case départ. Multiplication des emplois précaires, multiplication des emplois à temps partiel. Et ce qui me sidère le plus, c'est que ces emplois à temps partiel se trouvent dans deux domaines qui sont aussi deux branches les plus aidées par l'État, par la collectivité, par les contribuables, par nous, nous qui sommes dans cette salle. Nous contribuons par des décisions qui sont prises en notre nom à multiplier les emplois paupérisants, comme je les appelle, les emplois de travailleurs pauvres. C'est quoi ces deux branches ? C'est d'une part l'hôtellerie-restauration, avec le superbe cadeau de 2,5 milliards d'euros qui ont été consentis à cette profession, qui est une profession difficile, mais aucune contrepartie en termes de qualité d'emploi. Or, 50% des travailleurs de cette branche travaillent à temps partiel et 20% sont en situation de pauvreté à l'intérieur de cette branche. Il n'y a pas une seule branche, à une exception près, que je vais mentionner dans un instant, qui ait dans son sein autant de travailleurs pauvres. C'est les serveuses, c'est tous des emplois, c'est les femmes de chambre dans l'hôtellerie, c'est les serveuses en salle, c'est des emplois qui sont presque toujours des emplois féminins. On a là une pauvreté laborieuse au féminin qui s'est énormément développée au cours de ces dernières années, parce que l'hôtellerie-restauration s'est également beaucoup développée, mais par ces emplois, par le biais de ces emplois paupérisants. Et puis deuxième catégorie, deuxième branche dans laquelle on recrute énormément de travailleurs pauvres, c'est les emplois de service à domicile. Là encore, qui sont présentés comme l'eldorado de l'emploi, la mine d'or de l'emploi, ce qui va permettre de donner du travail à tout le monde. Sauf que ces emplois sont énormément subventionnés par le biais... par deux biais, soit les aides directes, c'est par exemple pour la garde d'enfants à domicile, hein, qui est possible. Or, c'est seul le dixième des familles ayant des enfants le mieux rémunéré qui bénéficie de ce type de... qui autrefois s'appelait l'AGED, l'allocation pour la garde d'enfants à domicile, qui est maintenant intégrée dans ce qu'on appelle l'allocation de libre choix parental. Donc, on verse des prestations sociales élevées, de l'ordre de 800 euros par mois au maximum, à une catégorie qui fait partie du dixième le plus favorisé de la population. Et puis, dans l'autre grande source de dépenses au titre de la collectivité, eh bien, c'est les déductions fiscales que tous les employeurs particuliers ou recourant à des associations agréées ou à des organismes agréés de services à domicile peuvent déduire de leurs impôts jusqu'à 15 000 euros par an. Dans certains cas, même jusqu'à 17 500 euros. Bon, ils ne sont pas très nombreux à 17 500 euros. Mais jusqu'à 15 000 euros, c'est possible pour pratiquement tous les salariés, enfin toutes les personnes qui ont des salariés à domicile. Donc, on voit bien qu'il y a là un problème, parce que vous additionnez ces deux formes d'aide publique, l'ex-AGED d'une part, qui représente à peu près 700 millions d'euros, et les déductions fiscales qui représentent à peu près 3,5 milliards d'euros, vous avez plus de 4 milliards d'euros qui sont versés par la collectivité, qui sont abandonnés par la collectivité au profit d'emplois qui sont par nature paupérisants. Il y a un problème là. Donc, moi je suis un peu scandalisé qu'on ne mette pas un certain nombre de conditions pour que ces emplois soient moins paupérisants. Alors, je ferai quelques propositions tout à l'heure. Voilà, j'en ai à peu près terminé avec ça. Simplement, pour terminer, une comparaison internationale, rapide. La France n'est pas le pays le plus mal loti dans l'Union européenne. Ça va un peu dans le même sens que tout à l'heure. La France se situe plutôt dans les pays... Alors, je suis désolé, mais il y a une statistique un peu plus récente qui vient de paraître, qui porte sur l'année 2008. Ça, c'est l'année 2007, toujours. La France, vous voyez, est donc en cinquième position par ordre d'importance croissante. Elle fait nettement moins bien que les Pays-Bas, mais elle est très nettement en dessous de l'Italie ou de la Grèce ou de l'Espagne, enfin les pays méridionaux de l'Europe méridionale qui flirtent avec les 20% de taux de pauvreté. On voit bien que le système de protection sociale français, ainsi que le système du salaire minimum français, c'est un système qui met quand même hors d'eau une partie de la population qui, lorsqu'elle ne bénéficie pas de ces deux formes de protection, est menacée par la pauvreté. Donc, on n'est pas complètement nul. Mais, compte tenu du fait que nous avons un système de protection sociale qui est le plus coûteux dans le monde, 31,1% du produit intérieur brut passe pour le financement de la production, de la protection sociale en France, qui est un record absolu. En numéro 2, vous avez la Suède, avec 30,9%, donc assez proche de la France. On pourrait s'attendre à mieux de la part de la France. Comment se fait-il que des pays qui dépensent moins pour leur protection sociale, comme c'est le cas pour les Pays-Bas ou l'Autriche, connaissent des situations meilleures? Ça signifie que les politiques publiques ne sont pas bien orientées. Ce n'est pas un problème de dépense, c'est un problème d'orientation de la dépense pour une part. Voilà. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Il y a quand même un petit point sur lequel j'aimerais dire deux mots avant de passer à mon deuxième point. C'est la question des familles nombreuses. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc trois principales catégories de personnes menacées par la pauvreté, c'est des personnes en situation, qui sont en situation d'emploi temporaire ou en situation d'emploi à temps partiel. C'est, deuxième cas de figure, des personnes qui sont sorties du marché du travail ou qui ne parviennent pas à en sortir, à y rentrer à cause d'un chômage de très longue durée. Deuxième catégorie, donc des personnes qui sont plutôt en situation d'exclusion sociale. Hein, la première catégorie étant plutôt des personnes en situation de travail, mais de travail insuffisant pour pouvoir s'en sortir. Et puis la troisième catégorie, c'est des familles nombreuses, car ça continue à être un problème pour elles. Lorsque vous avez une famille, même qui n'est pas nombreuse, avec deux enfants, mais un seul apporteur de revenus à l'intérieur de cette famille, et qui plus est un apporteur de revenus qui n'est pas inspecteur des finances, mais qui est plutôt smicard, eh bien, même avec les allocations familiales, il n'y parvient pas. Son foyer a un niveau de vie qui est inférieur au seuil de pauvreté. Hein. Et ceci est un problème majeur. Lié, c'est un truc qui me frappe parce que toutes les fois que je l'explique, les gens disent « Ah ben tiens, on n'y avait pas pensé ». Je m'explique. Jusque dans les années 60-70, la grande majorité des couples en France étaient de type latin ou catholique, hein, même s'ils n'avaient pas la religion catholique. Catholique latin, pourquoi ? Parce que la femme restait au foyer et l'homme allait travailler. C'était le modèle de monsieur gagne-pain et de madame reste au foyer. Ce modèle était le modèle général de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Il y avait une petite minorité qui y échappait, mais cette minorité y échappait parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était impossible de vivre autrement. Donc, dans les couches moyennes, eh bien, la règle, c'était que monsieur allait travailler, madame restait au foyer. Aujourd'hui, ça a complètement changé. En l'espace d'une trentaine d'années, entre 1970 et 2000, on est passé du modèle latin au modèle suédois ou scandinave, ou laïque, comme vous préférez, non catholique, qui est où les deux vont travailler. C'est normal que le couple soit composé d'un homme, enfin de deux conjoints qui ont vocation à être travailleurs. Alors, il y a des exceptions, des personnes handicapées, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces exceptions, hein. Je brosse un tableau à grand trait. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce phénomène du couple, de la famille, si vous préférez, ou du ménage, pour parler comme les économistes, composé, lorsqu'il y a plusieurs personnes, d'un couple biactif, comme on dit, eh bien, ça engendre deux revenus. Et le fait qu'il y ait deux revenus va engendrer une hausse du revenu médian. Même lorsque les gens ont le sentiment qu'ils ne gagnent pas suffisamment, le fait de vivre en couple et d'additionner deux SMIC, par exemple, dès lors qu'ils sont à temps plein, ça vous met largement hors d'eau du point de vue du seuil de pauvreté. Hein, à deux personnes, il faut 1500 euros pour être en dessous du seuil de pauvreté. Si vous gagnez 2300 euros ou 2200 euros en additionnant deux SMIC, ça va. Vous n'êtes pas à l'aise, mais vous êtes largement au-dessus du seuil de pauvreté. Vous n'êtes pas à plaindre au sens économique du terme, au sens social du terme. Par contre, si l'un des deux vient à perdre son emploi, et surtout s'il n'est pas rémunéré, ou s'il n'en trouve pas, alors à ce moment-là, c'est la catastrophe. Le couple devient tantôt une manière de sortir de la pauvreté, tantôt une façon de s'enfoncer dans la pauvreté, et a fortiori si les deux sont au chômage ou exclus ou en situation d'emploi précaire. Vous voyez, on est devant des... Et on est devant, enfin, j'allais dire, qui se ressemble s'assemble, hein, un phénomène à la Bourdieu, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est souvent des gens qui sont dans le bas de la pyramide sociale se mettent en couple ensemble. Et c'est souvent deux jeunes qui mènent la galère devant l'emploi qui se mettent en couple. Et c'est pas, en général, un bac plus 5 et puis un bac moins 5 qui se mettent en couple. Hein. Donc, on voit bien les phénomènes qui sont à la fois sociaux et économiques, mais de plus en plus les phénomènes économiques l'emportent. La pauvreté familiale tend à se résorber, ne serait-ce que parce qu'il y a de moins en moins de familles nombreuses et qu'il y a de plus en plus de couples biactifs, et il y a de plus en plus, au contraire, de ménages dans lesquels il y a un travailleur pauvre qui a une ou plusieurs personnes à charge et qui n'y parvient pas. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé, pardonnez-moi.
Denis, est-ce que tu m'autorises une question d'ordre technique ?
Oui.
Est-ce que on prend en compte le fait que le ménage vive ou non dans un HLM pour déterminer s'il appartient ou pas à la catégorie des travailleurs non. ou des gens pauvres ?
Non, on ne prend pas ça en compte. On prend en compte tous les revenus à l'exception des allocations logement. Et les allocations logement peuvent faire la différence parce que souvent c'est en particulier dans le logement social, vous savez, les allocations logement social sont versées directement au bailleur, c'est-à-dire à l'organisme qui loue, et donc ça réduit très sensiblement le poids du logement, alors que dans le parc privé, l'allocation logement est devenue une aubaine pour les bailleurs, puisque tous ceux qui louent un logement dans le secteur privé ont depuis en gros 15 ans que la logement, enfin un peu plus, 20 ans que l'allocation de logement social existe, ils ont relevé le tarif de leur loyer à peu près à proportion de l'allocation logement, si bien qu'ils récupèrent l'allocation logement et que le foyer continue à payer toujours la même chose, la même fraction de ce qu'il gagne au titre de son loyer. Et comme en plus le loyer a eu tendance au cours des, au moins jusqu'en 2007, à progresser plus vite depuis 2000 jusqu'en 2007 que le coût de la vie, ben, il y a une paupérisation liée à cela. Mais l'INSEE devrait sortir de nouveaux chiffres avec l'incidence logement à partir de 2010. Ben, on est en 2010, mais ce sera sur les revenus de 2010. Bon, alors, la deuxième partie va être plus courte, rassurez-vous, sur la paupérisation. J'ai défini jusqu'à présent la pauvreté par pauvreté monétaire, qui est un peu restrictive. Je l'ai défini par un constat objectif. On est ou on n'est pas pauvre. On est au-dessus ou en dessous ou juste au niveau du seuil de pauvreté. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est dans une situation assez simple. En revanche, la paupérisation, c'est complètement différent parce qu'on est dans le domaine du ressenti. La paupérisation va s'exprimer dans deux cas, dans trois cas. Premier cas de figure, c'est le sentiment de perdre du pouvoir d'achat d'une année sur l'autre, voire sur plusieurs années de suite. Sentiment parfois entièrement fondé, si on a dû quitter son emploi mieux payé pour un emploi moins bien payé, ou a fortiori si on est passé au chômage, d'un emploi au chômage, et le chômage étant évidemment moins bien rémunéré, a fortiori si on arrive en fin de droit. Donc premier cas de figure, la paupérisation, c'est des gens qui constatent une perte de pouvoir d'achat. Il peut y avoir des pertes de pouvoir d'achat liées par exemple à des séparations familiales. Parce qu'une fois encore, vivre à deux, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des économies d'échelle, ce que les économistes appellent des économies d'échelle. Tandis que si on se sépare, surtout si on a des enfants, puis qu'on essaye de trouver des systèmes de garde alternée, eh bien, ça signifie que chacun de son côté va devoir louer ou acheter éventuellement un logement suffisamment grand pour accueillir les enfants, va devoir s'équiper comme si y en a un qui n'aura pas à s'équiper, qui va garder le réfrigérateur, le congélateur, la télé, etc., mais l'autre qui devra le faire, et tout ça engendre des dépenses bien supérieures. Les deux ex-conjoints ont au total bien plus de dépenses que le couple n'en avait quand ils ne vivaient pas séparés. Et ça, c'est un sentiment de paupérisation qui est parfaitement objectif et qui peut se mesurer d'une manière très très simple, mais qui n'est pas lié à des causes économiques, qui est lié simplement au fait qu'on ne se partage plus le revenu de la même manière et qu'on a à faire face à des charges qui, chacun de son côté, ont augmenté. Deuxième cas de figure de la paupérisation, c'est la crainte d'être victime à l'avenir d'une perte de pouvoir d'achat, par exemple liée à un déclassement, au fait que je vais perdre mon boulot, je suis cadre, mais arrivé à 50 ans, je risque d'être jeté dehors et je ne retrouverai du boulot que déclassé par rapport à mes qualifications réelles. Cette crainte, elle est partagée par bon nombre de gens, même si une petite partie la connaît réellement. Pour une part de la population, c'est une réalité qui s'est concrétisée. Donc, ce n'est pas des fantasmes. J'essaye de vous montrer que si des gens craignent cette situation, c'est parce que, dans un certain nombre de cas qu'ils connaissent ou dont on leur a fait part, ils savent que c'est comme ça que ça risque de se passer et ils peuvent être dans l'œil du cyclone un jour ou l'autre. Troisième cas où on parle de paupérisation, c'est lorsqu'on a peur pour ses enfants d'un déclassement à l'avenir, c'est-à-dire qu'ils soient victimes d'un descenseur social alors qu'on a été jusqu'à présent plutôt aspiré par un ascenseur social. Et donc que les enfants à diplôme égal ou à qualification égale n'aient pas les emplois aussi rémunérateurs ou aussi de qualité que ceux dont on a pu bénéficier. Donc crainte que l'emploi se dégrade au détriment de ses enfants. Là, il s'agit d'une crainte le plus souvent, mais là encore, il y a parfois des exemples bien compréhensibles, bien vécus. Néanmoins, la crainte de paupérisation est partagée par une grande part de la population. Quand on pose la question tout bêtement aux gens, craignez-vous de devenir un jour sans domicile fixe ? Je fais une petite parenthèse. Il y a à peu près 150 000 personnes en France qui vivent sans domicile fixe. La majorité d'entre eux étaient en caravane, l'autre partie étant en foyer, donc vivant dans des foyers, et un tout petit nombre vivant dans la rue. Donc 150 000 personnes sont sans domicile fixe, puisque les caravanes ne sont pas considérées comme sans domicile fixe. C'est peut-être un peu plus aujourd'hui, avec la crise, on va dire peut-être de l'ordre de 200 000. Le dernier comptage qu'on a fait, c'était en 2004, c'était 150 000. Bon, rappelez-vous de ce chiffre, 150 000 personnes sur 60 ou 65 millions de Français, ça représente quelque chose comme 0, quelque chose pour cent de la population française. On pose la question, avez-vous peur, craignez-vous de devenir un jour SDF ? 55% des Français ont répondu oui à cette question qui leur a été posée en 2007 dans un eurobaromètre de la Commission européenne. 55% des Français. On n'est pas dans 0, quelque chose pour cent. Vous voyez bien qu'entre la crainte et la réalité, il peut y avoir d'énormes écarts. mais que ces écarts sont suffisamment, justifiés par des expériences. Je veux dire, ce n'est pas un fantasme, une fois encore, ce n'est pas, comme certains le disent un peu légèrement, la peur de la paupérisation ou l'expérience de la paupérisation n'est pas une invention. Elle se traduit dans les faits par la multiplication des emplois temporaires, par les crises économiques que nous vivons et leur cortège de licenciements, par le fait qu'à partir de 50 ans, c'est vrai qu'un certain nombre de travailleurs dits seniors deviennent très vulnérables, que souvent ce sont eux qui jouent les soutiers de l'emploi, c'est sur eux qu'on compte pour faire les ajustements dans les entreprises. Donc il y a des réalités bien concrètes, mais ces réalités bien concrètes ne touchent qu'une minorité de ceux qui craignent la paupérisation. En d'autres termes, c'est un sentiment qui est partagé par bien plus de gens que ceux qui en ont l'expérience. Pour vous donner un autre chiffre, quand on regarde l'enquête emploi, qui est une enquête importante de l'INSEE, qui portera prochainement sur 150 000 ménages chaque année. Actuellement, ça porte sur 150 000 personnes. Actuellement, ça porte sur 75 000 personnes chaque année, mais qui sont interrogées 4 fois par an. Bien, on s'aperçoit... C'est normal qu'il y ait ce... Bon. On s'aperçoit que 3% des gens qui étaient en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée, se retrouvent au chômage l'année suivante. 3%. La probabilité d'être victime de ce type de paupérisation est donc objectivement faible. Mais un grand nombre de gens craignent de l'être, parce que personne ne sait à l'avance qui va être victime. Et quand, en plus, on travaille dans l'industrie, et que, en plus, ce métier qu'on possède sur le bout des doigts, pour lequel on a une compétence professionnelle, un savoir-faire acquis par l'expérience, il n'est pas reconnu par des diplômes, parce qu'on n'a pas de diplôme, et que, en outre, c'est le problème de Boulinex, par exemple, l'entreprise, si elle ferme, ou si elle se délocalise, le type d'emploi, ou le type de savoir-faire, ou le type de compétence que j'ai entre les mains ne sera plus utile à personne, parce que ce type d'emploi va disparaître. Les femmes de Moulinex voyant disparaître les derniers emplois pour les petits outillages électroménagers en France, elles n'avaient pas la possibilité de valoriser leur savoir-faire antérieur sous quelque forme que ce soit. Et donc, ce que j'appelle le syndrome Moulinex se traduit par une grande crainte de la part de bon nombre de gens qui craignent que ça se réalise pour eux. Parce que si ça se réalise, ils ont tout à perdre. Ils ont à perdre non seulement leur emploi et le revenu qui va avec, et la difficulté de revenir, de rebondir avec un emploi correct dans le futur, mais ils perdent également leurs compétences professionnelles, leurs relations sociales, parce que c'est très souvent, l'emploi c'est un lieu où on tisse des liens sociaux extrêmement denses, même si ce n'est pas des liens sociaux aussi forts que ceux de la famille, il reste que c'est un lien social extrêmement fort, où on se sent membre d'un collectif de travail, même si on n'adhère pas au syndicat, ce collectif il a une réalité, il suffit de regarder la télé ou d'être un proche de ceux qui ont été licenciés dans une fermeture d'entreprise, une délocalisation d'entreprise pour comprendre la colère de ces gens qui ont le sentiment d'avoir beaucoup donné pour leur entreprise et puis d'en être jetés d'une manière absolument ignoble, comme s'ils n'étaient que de la chair à saucisse. Donc, pour eux, tout est à perdre. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que la paupérisation est un sentiment ressenti extrêmement douloureusement par bon nombre de gens, non pas en raison d'une réalité vécue, mais en raison d'une crainte majeure, crainte de perdre énormément si le pire arrive. Et le pire peut arriver, même s'il n'est pas le plus fréquent. Donc, on est là devant un problème. Alors, je vais terminer cette question de la paupérisation par deux autres éléments, et puis je passerai très rapidement au dernier point sur qu'est-ce qu'on peut faire, mais ça va être très, très court, rassurez-vous. Les deux derniers éléments, c'est les statistiques de pouvoir d'achat. En France, alors, on a beaucoup dit sur l'INSEE que c'était n'importe quoi, qu'on n'avait pas pris en compte la réalité vécue par les gens, en particulier dans le domaine du logement, de l'énergie, du coût de la vie, etc., etc., qu'avec l'euro, on nous avait raconté des bobards, que les mesures valaient rien. Je peux vous garantir que les bobards, ce sont ceux qui disent que c'est des bobards. Je suis prêt à mettre ma main sur le bio, voire ma tête sur le bio, pour qu'on me prouve que la façon de mesurer la hausse du coût de la vie en France est une mauvaise façon. C'est pas vrai. Mais ôtez-vous de ça de l'esprit. Il peut y avoir des cas où, effectivement, la moyenne cache des disparités. Et que le coût du loyer ou le coût de la voiture ou le coût de l'énergie pour se chauffer ont tellement augmenté que c'est bien supérieur au coût de la vie tel qu'il est mesuré. Mais même ça, l'INSEE le mesure. Elle mesure par ce qu'on appelle des déciles de population, du dixième le plus pauvre au dixième le plus riche. Et donc ces chiffres sont en règle générale de très bonne qualité. On peut les contester à la marge, mais pas dans les ordres de grandeur. En revanche, donc, dire que ces chiffres ne montrent pas la moindre perte de pouvoir d'achat. Depuis qu'on a des chiffres sérieux, c'est-à-dire en gros depuis une vingtaine d'années, on ne mesure pas de perte de pouvoir d'achat dans son ensemble, pour l'ensemble, par exemple, des salariés ou pour l'ensemble des gens qui sont en emploi. C'est pas vrai. Il peut y avoir des cas particuliers, par exemple, des agriculteurs qui, d'une année sur l'autre, perdent du pouvoir d'achat, un salarié qui perd du pouvoir d'achat parce qu'il a changé d'emploi ou qu'il s'est retrouvé au chômage. Je ne nie pas ces itinéraires particuliers, mais dans l'ensemble, c'est pas le cas. Donc, première chose, il n'y a pas de paupérisation objective mesurée par une baisse, une perte de pouvoir d'achat dans son ensemble. En revanche, ce qu'il y a, et ça m'apparaît, c'est le directeur général de l'INSEE, d'ailleurs, Cottis, qui l'a révélé dans le rapport qui porte son nom, et vous pourrez le trouver en ligne sur le site de l'INSEE, vous tapez « rapport Cottis », C-O-T-I-S, le montant des revenus d'activité, en particulier chez les salariés travaillant dans les entreprises, a été partagé dans des proportions de plus en plus inéquitables. Le SMIC a permis que l'ouverture de l'éventail vers le bas ne se fasse pas, parce que, en gros, le SMIC a progressé au rythme du coût de la vie, même un peu plus vite. Mais dans le haut, là, il n'y a pas eu de limite. Et en gros, les 20 000 salariés les mieux payés, et un PDG est un salarié de sa société, il est en même temps, c'est pour ça qu'il porte le titre de président du conseil d'administration, il est donc mandataire social, mais en même temps, il est directeur général, ce qui lui permet d'être salarié et du même coup de bénéficier des deux systèmes de rémunération. En tant que président du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du conseil de surveillance, et en tant que salarié, comme directeur général. Donc les PDG, mais aussi des tas de cadres dirigeants, et on pourrait ajouter les traders, etc., tout ce que vous voulez, ont connu des progressions de rémunération absolument fantastiques. 20 000 d'entre eux ont gagné à peu près l'équivalent, ont vu leur pouvoir d'achat augmenter à peu près dans la même proportion que les 30% les moins bien lotis des salariés. C'est-à-dire 0,01% des salariés ont reçu une hausse de pouvoir d'achat équivalent à celle partagée entre 30% des salariés les moins bien payés. Et le résultat, c'est qu'effectivement, le pouvoir d'achat du salaire médian a progressé au rythme de 4% au cours des 10 dernières années. Pas au rythme de 4% par an, 4% sur les 10 dernières années. Ben 4%, c'est très peu. Et il suffit de pas grand-chose, un petit accident de la vie, d'une hausse du fioul ou n'importe quoi d'autre pour que ces 4% disparaissent, et où il suffit du téléphone portable pour qu'ils disparaissent. Car les besoins évoluent, là aussi. Voilà, alors j'en ai terminé sur la question de la paupérisation. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, deux choses, principalement deux choses. Ou trois choses, plus exactement. La première, c'est faire en sorte que les parcours professionnels soient de mieux en mieux sécurisés. Il n'est pas admissible que les salariés qui soit n'ont pas suffisamment cotisé à l'assurance chômage, soit sont licenciés, arrivent à des situations d'extrême précarité parce qu'ils ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage. Si la société ne veut pas d'eux, la société doit les indemniser. Le modèle nous est montré à ce moment-là par le Danemark. Le Danemark indemnise au titre de l'assurance chômage et entre 1 000 et 2 000 euros, 2 000 euros c'est le plafond et 1 000 euros c'est la base, le minimum, toutes les personnes qui sont sur le marché du travail en chômage, qui recherchent un emploi. En échange, et ça dès le premier jour. Il suffit de dire je recherche un emploi et de vérifier que, de prouver qu'on recherche un emploi et vous êtes indemnisé. Et 6 ans de suite. Bon, en général, on n'attend pas 6 ans parce que si les personnes au bout d'un an n'ont rien trouvé, c'est qu'il y a un problème. Et on les met en formation, mais toujours une formation rémunérée. Il faut qu'elles puissent rebondir. Il y a une responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis de leurs salariés seniors. C'est pas la peine de nous raconter des histoires sur l'allongement de sur l'âge légal de la retraite qui va demeurer si les entreprises continuent à mettre leurs salariés seniors à la porte à 55 ans en moyenne. Il y a un vrai problème là. Donc, quelque chose à négocier dans le domaine de la sécurisation des parcours professionnels et notamment de l'entre-deux parcours professionnels. Deuxième piste, je vais très vite, on pourra y revenir tout à l'heure, c'est que l'État qui dépense beaucoup d'argent pour des branches qui sont en même temps des branches qui engendrent beaucoup de pauvreté laborieuse, mette des conditions à cet argent dépensé. Qu'on contraigne, par exemple, les partenaires sociaux dans l'hôtellerie-restauration à négocier sur une baisse progressive du taux de temps partiel. Ou que l'on permette dans la convention collective à des gens qui sont à temps partiel de bénéficier d'un temps moins partiel dès lors qu'un poste à temps moins partiel se libère dans l'entreprise. Ça existe, par exemple, aux Pays-Bas. Donc, il y a sans doute beaucoup à faire. Dans le domaine des services à la personne, obliger les employeurs, les personnes qui recourent aux services à la personne, de passer par des associations agréées qui vont mailler les miettes d'emploi. L'emploi moyen dans les services à la personne, c'est 9 heures par semaine. Comment vivre au SMIC avec 9 heures par semaine? C'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs emplois qui soient maillés, rassemblés, et c'est ça. C'est comme ça qu'on luttera contre la paupérisation laborieuse dans ce type de métier. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais ces deux-là me paraissent suffisants. Et puis, la troisième, c'est le troisième exemple, c'est la lutte contre l'échec scolaire. Car ce que je n'ai pas dit, c'est que le chômage, notamment chez les jeunes, touche, tout le monde le sait, à peu près 25% des jeunes de moins de 25 ans. Sauf qu'il y a à peu près 8 millions de jeunes de moins de 25 ans, mais il y en a à peine 3,5 millions qui sont comptabilisés pour savoir s'ils sont au chômage ou pas. Parce que dès lors qu'un jeune continue des études, il est exclu de l'emploi. Enfin, il est exclu. Certains peuvent avoir des petits boulots par ailleurs, mais la grande majorité n'en ont pas. Et donc, de ce fait, ils ne sont pas sur le marché du travail. Or, le taux de chômage des jeunes ne se calcule que pour ceux qui sont sur le marché du travail. D'accord ? Et donc, c'est à peine 4 millions, 3 millions et demi de personnes, de jeunes, peut-être 4 millions maintenant, parce que la crise a mis beaucoup de jeunes en situation difficile, ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Donc, il y a peut-être 4 millions de chômeurs chez les jeunes aujourd'hui, mais 25% d'entre eux, ça fait à peu près 1 million. On va dire 1 million de jeunes sont au chômage. Sauf que sur ce million de jeunes qui sont au chômage, 80% d'entre eux, 80% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage n'ont pas de diplôme. Et 20% ont un diplôme. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont un diplôme, c'est le tapis rouge qui leur est développé, leur est déroulé. Mais ils finissent par trouver quelque chose. Alors que les autres, ils ont beau chercher, ils ne trouvent rien. Le marché du travail sélectionne. Et pour un employeur, vous comprenez, le marché du travail, le contrat de travail, c'est un contrat incomplet. Les juristes parlent d'incomplétude du marché du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'employeur sait combien ça lui coûte, mais il ne sait pas combien l'employé qu'il recrute va lui rapporter. Il sait combien il va le payer, mais il ne sait pas en échange quelle est la valeur ajoutée que l'employé va dégager. Alors, il va essayer de trier pour éviter les erreurs d'embauche. Le type qui est toujours en congé maladie, la femme qui a des enfants malades et qui ne vient pas à son boulot un jour sur deux parce que, j'exagère, mais ces cas-là existent. Alors comment on fait ? Eh bien, on prend un certain nombre de critères objectifs. Et un de ces critères, c'est mauvais à l'école, mauvais au boulot. C'est faux, évidemment, tout le monde le sait que c'est faux. Mais il n'empêche que c'est un critère commode. Systématiquement, les jeunes qui, sur leur CV, ont aucune expérience ou sont passés par des contrats aidés non marchands ou sont passés par de l'échec scolaire, ceux-là, ils sont éliminés. Ce n'est pas une règle absolue, mais il y a suffisamment peu d'exceptions pour dire que c'est une règle très majoritaire. Le résultat, c'est que les taux de chômage des jeunes sans diplôme sont de 40%. Les taux de chômage des jeunes avec diplôme sont compris entre 6 et 8% selon la catégorie du diplôme. Et en plus, ces jeunes sans diplôme, eh bien, c'est les jeunes qui ont ce dont personne ne veut. Les emplois dont personne ne veut, les emplois très temporaires, 8 jours par-ci, 15 jours par-là. Les missions d'intérim. Or, ces missions d'intérim avec la crise, où les trouvait-on ? Dans le bâtiment et l'industrie, c'est justement les deux secteurs qui ont payé le tribut le plus lourd à la crise. Et ils l'ont payé comment ? Par la suppression des postes d'intérimaires. Vous allez chez Peugeot, par exemple, un quart des salariés de chez Peugeot, des salariés ouvriers de chez Peugeot, moi je suis de l'Est, hein, donc mes cousins et une partie de ma famille sont à Montbéliard, donc j'y vais souvent, donc un quart de ces salariés étaient des intérimaires. Quand la réduction de la demande a fait qu'il fallait réduire la voilure, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cessé les intérimaires du jour au lendemain. Et un très grand nombre d'entre eux, c'était des jeunes, et des jeunes sans diplôme le plus souvent. Voilà, j'en ai terminé. On voit que lutter contre l'échec scolaire, c'est le seul moyen, pas un moyen 100% sûr, mais un moyen raisonnablement sûr pour permettre à des jeunes de passer le handicap qui est le leur lorsqu'ils n'ont pas de diplôme et qui fait qu'ils risquent d'avoir une existence extrêmement chahutée. Je vous remercie.
Ben, merci pour comment cet état des lieux des pauvretés, et avec en prime ce distinguo entre la pauvreté qu'on peut mesurer, hein, on l'a bien vu, et puis la paupérisation qui relève plus des représentations. Alors pour faire le lien et avant de donner la parole au public, on a une bonne demi-heure, hein, pour recueillir vos interrogations, vos questionnements. Quand même une question pour faire le lien avec la notion d'inégalité. Est-ce que je caricature le propos en considérant qu'au final subsistent de très fortes inégalités face à la pauvreté selon ne serait-ce que le secteur d'activité où on travaille, le type de statut, hein, d'emploi, et je serais tenté d'ajouter selon aussi les villes, les territoires, c'est-à-dire est-ce que le fait de vivre dans une grande ville plutôt qu'une ville moyenne est un facteur aggravant ou au contraire qui atténue les risques de tomber dans une des trappes de pauvreté. Voilà les interrogations que j'avais pour ma part avant de prendre celles du public.
Alors, je répondrai volontiers d'une boutade, mais lisez donc mon bouquin, hein, il est très beau, pas cher, il vient de paraître aux éditions Armand Collin, les réponses y sont. Mais en deux mots, c'est vrai, il y a de très fortes inégalités devant la pauvreté laborieuse selon les branches. Vous prenez par exemple la branche transport. C'est vrai que les chauffeurs routiers, par exemple, ont une vie de chien. C'est pas drôle, enfin, ça dépend quel transporteur routier, enfin quel chauffeur routier, mais un certain nombre sont loin de leur famille. Bon, entre parenthèses, c'est dans cette profession-là qu'on retrouve le plus de femmes battues, mais passons. Et pourtant, la branche transport n'est pas concernée par la pauvreté, parce que la SNCF, il n'y a pas un travailleur pauvre à la SNCF. Sauf peut-être un cas d'un travailleur d'origine maghrébine qui a sa femme voilée et 14 enfants. Enfin, c'est complètement caricatural ce que je dis, mais ça peut exister. Mais c'est des cas exceptionnels. Les salaires dans un certain nombre de branches d'entreprises, la SNCF, EDF, etc., les salaires minima de base sont tels qu'il est pratiquement impossible de devenir travailleur pauvre. Donc, on voit qu'il y a des entreprises qui ont, soit du fait de leur histoire, soit du fait de la force syndicale, soit du fait de l'existence d'une corporation, c'est-à-dire des gens qui se tiennent les coudes et qui se sentent membres d'une grande famille, il y a eu une volonté de s'opposer à des formes de libéralisation qui se traduisaient par du recours à l'emploi précaire, etc., etc. Mais ce sont des exceptions maintenant. Alors, en ville, voilà. Oui, les grandes villes ont évidemment beaucoup plus de personnes en situation de pauvreté, pas uniquement de travailleurs pauvres, de personnes en situation de pauvreté. J'entends les agglomérations urbaines, les bassins d'emploi de grande dimension, on en a beaucoup plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont proportionnellement plus de travail paupérisant, mais c'est tout simplement que les gens, c'est un peu comme dans les gares. Ceux qui font la manche, ils ont plus de chances de trouver des gens qui leur fileront une pièce dans une gare parce qu'il y a beaucoup de passages que dans une rue éloignée où il y a un passant tous les quarts d'heure. Bon, eh bien, c'est exactement la même chose. Les grands bassins d'emploi, on a une probabilité bien plus forte de trouver un emploi, même déclassé, même de mauvaise qualité, que dans les petits bassins d'emploi. C'est, quand à Falaise, l'usine Moulinex ferme, c'est la catastrophe. J'ai vécu, par exemple, la faillite de Creusot-Loire en 1985. 15 000 salariés, du jour au lendemain, mis sur le tapis au Creusot, une ville qui faisait à l'époque 45 000 habitants. C'était dramatique, mais absolument dramatique, même pour eux, indirectement, pour les commerçants, pour enfin, tout le monde. C'était, il y avait que les fonctionnaires qui pouvaient dire qu'ils n'étaient pas touchés directement dans leur corps par la faillite de Creusot-Loire. Tous les autres, ça a été une plongée. Donc, il y a un phénomène de grande agglomération, et ces grandes agglomérations, c'est une fois encore pas forcément lié au fait que l'emploi y est de plus mauvaise qualité, mais c'est lié au fait qu'elles attirent beaucoup de gens qui viennent chercher du boulot désespérément.
On verra avec Jam si c'est le cas de l'agglomération de Poitiers. Question. Ah ben voilà, merci Virginie Offroy. On met à disposition un micro, il vous suffit de lever le bras. Ah ben voilà. N'hésitez pas à vous présenter.
Bonsoir Monsieur Clair, Jérôme Godina. Je suis une personne handicapée, je suis particulier employeur et j'ai arrêté de fonctionner. Avec des associations ou des sociétés d'aide à la personne, et j'emploie directement mes salariés. Tout simplement, au bout de 6 années maintenant d'exercice fiscal de façon indépendante, ben, je m'aperçois que les gens qui passent chez moi ont un salaire plus important que lorsqu'ils travaillent pour ces associations ou ces sociétés, parce que là, c'est le SMIC qui règne en général. Et ensuite, la durée, enfin, la fidélisation est quand même bien meilleure quand on est particulier employeur que quand on passe par ces associations où les gens font ça vraiment en tant que boulot par défaut, en attente d'autre chose. Alors, j'irai dans un premier temps, moi, je voudrais vous m'expliquer à ce moment-là pourquoi le fait d'être particulier employeur entraîne vers le bas, vers cette pauvreté, alors que finalement, on essaye d'avoir des salaires quand même nettement meilleurs, hein, c'est de l'ordre de 20 à 30% quand même. Et alors bien sûr, la contrepartie, c'est qu'effectivement, moi je ne suis pas soumis aux charges patronales, mais c'est vrai que en même temps, les revenus d'une personne handicapée ne sont pas non plus exorbitants.
Alors, si j'ose me permettre, vous êtes un cas plutôt à part. Je n'ai pas dit que les services à domicile étaient dénués d'intérêt social. Bien au contraire. C'est un type d'emploi qui rend des services dans tous les sens du terme, et qu'il ne faut surtout pas supprimer dans un certain nombre de cas. En tout cas, il ne faut pas mettre de frein. Deuxièmement, vous êtes un cas un peu à part, dans la mesure où, sans doute, vous avez avec vos salariés des relations qui sont de longue durée et vraisemblablement avec des durées d'emploi qui, pour chacun d'entre eux, sont loin d'être négligeables. Ce qui, une fois encore, n'est pas forcément le cas de la personne qui recrute une femme de ménage pour quelques heures par semaine, le quelques heures étant en général inférieur à 10. Vous dites, et à juste titre, hélas, que passer par une association intermédiaire est souvent plus dévalorisant en termes de conditions de rémunération que de passer par un particulier employeur, parce que dans ce dernier cas, la relation d'emploi est de meilleure qualité, et je n'en doute pas dans votre cas, mais ce n'est pas une généralité. Ce n'est pas une généralité. Je vais prendre deux exemples. Une personne, dans la majorité des cas, les services à domicile sont payés par des CESU, des chèques emploi service universel. Ces CESU valent contrat de travail. Le jour où l'employeur meurt, aucune indemnité au titre de la rupture du contrat de travail n'est due par ses héritiers. Aucune. Le jour où il décide de vous mettre à la porte, dans 9 cas sur 10, il le fait sans versement d'aucune indemnité. Il est en tort au terme de la convention collective, sauf que cette convention collective est ignorée de la quasi-totalité des employés de maison. Donc, aucun d'entre eux ne prendra le risque de venir devant les prud'hommes. Parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Troisième problème, la formation. La formation est, en général, rarement un droit pour les salariés de personnes physiques, donc dans ce qu'on appelle l'employeur de gré à gré, hein, l'emploi de gré à gré. L'employeur lui-même ne sait même pas qu'il a une obligation de formation vis-à-vis de ses salariés. Il pense qu'en payant le CESU, il en est quitte. Non, il n'en est pas quitte. Il n'en est pas quitte et il devrait normalement cotiser à une caisse, à un fonds d'assurance formation particulier pour les employés de maison. Il ne le fait pas dans 99% des cas. Il ne le fait que lorsqu'il ne relève pas du CESU. Parce que là, c'est indiqué. Je n'ai jamais vu un imprimé distribué aux employeurs utilisant le CESU leur rappelant leurs obligations. Il y a des obligations en termes de déclaration, il n'y a pas d'obligation en termes de conditions de travail. Et puis, il y a des obligations en termes de niveau de salaire, etc. Enfin, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est qu'en règle générale, chez les employeurs, vous êtes sans doute une des rares exceptions, l'ancienneté n'est pas reconnue. Alors que là encore, il y a une convention collective qui prévoit... Moi, le raisonnement que je tiens, c'est si on passait, non pas par des entreprises, des associations intermédiaires, qui jouent qui se font du fric sur le dos d'un certain nombre de salariés en situation de précarité, hein, qui facturent 20% de plus pour leurs frais de gestion, alors que si elles avaient une gestion correcte, 5% devrait suffire. Donc, je ne mets pas du tout devant le haut de la scène les associations.